Et il est 19h presque 22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Ça commence samedi soir dans un bar avec un couple d'amis. Et comment va ta fille? Alors, eh ben, bien, elle a une copine. Ah bon? Elle est lesbienne alors? Ah ben ça, c'est exactement la question qu'il ne faut pas lui poser, sinon c'est que t'as rien compris. Allons bon, ne croyez pas que cette scène soit sortie de l'espace, disons plutôt que tous les ados et jeunes adultes ont désormais des sujets de réflexion et des interrogations qui parfois nous dépassent. Ils ont un vocabulaire, ils ont des mots nouveaux, gender fluide, non-binaire, cisgenre, les pistes sont brouillées, les normes sont floutées comme les frontières entre le masculin et le féminin. Ils savent, ils nous corrigent, ils savent différencier sexualité et genre. Alors on peut lever les yeux au ciel et se demander ce qu'ils ramènent de l'école de nos jours, se dire que cette tendance ridicule concerne trois personnes, ou reconnaître qu'on est paumé, que nous sommes nous, la génération d'après, celle qui a besoin de clés pour comprendre ce que les jeunes nous disent, pourquoi ils sont plus décomplexés, plus à l'aise avec ces questions que nous l'étions, sûrement, au même âge que. Ça n'empêche pas les choses trappes, ça n'empêche aucun des dangers, ça n'empêche aucune des discriminations dont cette génération est victime aussi, mais c'est un dialogue à avoir avec cette nouvelle génération, les jeunes, le genre, la sexualité, expliquer aux parents. Et c'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
La première c'est vous, Camille, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute Camille.
Ben déjà je voulais vous remercier d'aborder ce sujet, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important. Voilà, moi je suis maman d'une jeune fille qui a 16 ans, qui se pose encore ces questions d'identité de genre et d'identité sexuelle. Par exemple, elle se maquille et puis ensuite elle va dire « je suis beau ». Voilà. Et voilà, alors actuellement elle est en relation, elle a une relation avec une personne qui est aussi en questionnement sur son identité de genre. Donc je lui ai demandé comment il fallait l'appeler. Si c'était il ou elle ou il. Et voilà, c'est vrai que c'est pas un vocabulaire que j'ai trop l'habitude d'employer, mais j'essaye de m'y mettre parce que déjà c'est un sujet qui est très fréquent dans l'entourage de ma fille. Elle nous parle de beaucoup d'amis ou de connaissances qui sont dans ce genre de questionnement. Et je trouve ça bien qu'il bouscule un petit peu les catégories hommes-femmes sur lesquelles on a complètement basé notre société, l'éducation qu'on donne à nos enfants et qui sont finalement peut-être pas si nécessaires que ça dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir si en face de nous on a un homme, une femme ou en dehors de cas où on doit se reproduire? Enfin, pour moi, c'est peut-être pas si important que ça.
Et Camille, est-ce qu'il a fallu du coup que vous vous plongiez dans des lectures que vous n'aviez pas imaginées, que vous vous mettiez à regarder un certain nombre de choses et peut-être de ce que sont les modèles de votre fille pour essayer de comprendre aussi? Il y a toute une pédagogie pour vous et chez vous, j'imagine?
Oui, alors un petit peu. Alors c'est vrai que je m'intéresse déjà à toutes les questions féministes, etc. Donc, mais c'est sûr que j'ai été déstabilisée, je le suis parfois encore, et c'est pas c'est quelque chose qui est tellement à l'encontre de tous les modèles qu'on nous donne dans notre société que c'est forcément déroutant. Mais je trouve que ces jeunes-là sont dans le juste parce que il faut considérer l'autre comme une personne, finalement, quelle que soit l'identité de genre qu'elle a ou qu'elle souhaite se donner. On a d'abord en face de nous une personne et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important? Voilà, merci. C'est la question.
Merci beaucoup, Camille. Merci pour votre témoignage qui entame joliment notre discussion ce soir jusqu'à 20h. Nous avons avec nous et en studio Jean Chambry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre et Charline Debar est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère conjugale et familiale, coprésidente du planning familial des Deux-Sèvres. Jean Chambry, moi, je voudrais votre avis sur le témoignage témoignage de Camille. Et il y a des choses très jolies dans ce qu'elle dit, à la fois, alors j'accepte, je regarde aussi ça, et en même temps elle dit qu'elle a été déstabilisée, que ça va à l'encontre d'un certain nombre de modèles. On a l'impression, plutôt que de pousser des cris d'orfraie, qu'il faudrait au fond que chacun fasse sa moitié de chemin, au fond, entre les plus jeunes et nous, la génération d'après.
Là, je pense que déjà il faut accepter que en tant qu'adulte on a des choses à apprendre des jeunes, et par ailleurs effectivement il y a de nouvelles propositions sur les repères à investir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette génération, qui accepte d'une part que c'est pas la biologie qui détermine l'identité, c'est pas le pénis qui fait l'homme, c'est pas le vagin qui fait la femme, et c'est bien ce qu'on ressent être. Donc ça, c'est déjà un premier saut important à faire, et je crois que ça déstabilise encore un certain nombre de personnes. Mais au-delà de ça, effectivement, ce sont des jeunes qui pensent qu'on peut penser son identité sans forcément répondre à l'obligation de se définir en tant qu'homme et en tant que femme, avec de nouvelles terminologies, être non-binaire, être mi-femme, être mi-homme, être ni femme ni homme, être neutre. Et c'est vrai que je pense que les pour notre génération qui a tellement intériorisé des normes autour de ces questions hommes-femmes, c'est assez déstabilisant. Moi, je pense que c'est une nouvelle possibilité de se penser, et il faut pouvoir accueillir ça avec bienveillance et discussion et rencontres autour de ces sujets.
Est-ce que ça se voit dans votre cabinet, Jean Chambry? C'est-à-dire, est-ce que vous avez en face de vous de plus en plus de problématiques qui ressemblent à ça, de jeunes gens qui viennent vous voir avec cette problématique, ou de parents qui viennent vous voir parce que ils n'ont pas compris? Et en général, quand ils viennent vous voir d'ailleurs, c'est pour vous dire quoi en fait?
Alors, je dirais qu'il y a deux dimensions. Il y a les parents qui sont déstabilisés par ce discours du jeune et qui se demandent si ça...
Et qui envoient leur fils chez vous ou leur fille chez
voilà,
vous,
voilà, qui
gros.
Se demandent s'il n'y a pas quelque chose d'un trouble qu'il faudrait détecter. Et là, c'est très important que nous, en tant que pédopsychiatres, on soit bien clair là-dessus, qu'il n'y a pas de trouble psychiatrique sur ce discours et que c'est une nouvelle façon de pouvoir se penser. Et puis, il y a un petit pourcentage, et je tiens à le rappeler, c'est un petit pourcentage d'enfants et d'adolescents qui ont une réelle souffrance dans la construction identitaire et qui, eux, vont être intéressés d'avancer et de pouvoir envisager des perspectives de changement de corps. Donc là, on est dans une autre problématique. Mais il y a vraiment deux dimensions. La question de l'affirmation identitaire dans les repères culturels et de société qu'on est en train de vivre, et il y a la question de la place d'un traitement médico-chirurgical, mais qui concerne effectivement une minorité de personnes.
Charline Debar, vous qui êtes notamment coprésidente du planning familial, en l'occurrence celui des Deux-Sèvres, est-ce que cette déstabilisation, pour vous aussi, qui aviez probablement l'habitude de travailler sur d'autres représentations, sur également un autre public, est-ce que vous avez été bousculé vous aussi? Est-ce qu'on se bouscule aussi au planning familial autour de ces questionnements?
Ah, tout à fait. Alors déjà, je voudrais remercier Camille pour son témoignage, parce qu'effectivement... Il y a beaucoup de parents qui sont déstabilisés et pour qui c'est très compliqué, parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est pas évident quand on a été construit avec une norme et des représentations de venir être chamboulé par toutes ces nouvelles perspectives en fait, qui est une réalité. Effectivement, nous en intervention en milieu scolaire, c'est très fréquent. En fait, si ce n'est pas à chaque intervention milieu scolaire, on a des jeunes qui sont sur ces questionnements-là et qui sont « mais en fait, comment est-ce que j'en parle à ma famille ? Comment est-ce que j'en parle autour de moi ?» Grâce aux réseaux sociaux, en fait, je dirais, et là, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux, ils ont accès à toute cette information. Et là, aujourd'hui, c'est maintenant comment est-ce que je peux en parler à ma famille, comment est-ce que ça va être accepté, entendu, parce qu'ils ont conscience que leurs parents, il y en a certains, mais je sais que mes parents, ils m'aiment profondément, mais que ça va être trop pour eux. Et qu'il faut entendre aussi le discours des parents, parce que souvent, on propose cet accompagnement-là, de dire, en fait, n'hésite pas, tu peux venir, en fait, avec tes parents, on accueille les parents, mais sur ces questions-là, mais de manière générale, sur la vie affective et sexuelle et relationnelle, c'est C'est vraiment les parents les accompagner dans cette démarche, parce que il y a une forme de violence aussi pour certains pour certains parents, en fait, qu'il faut absolument entendre, accueillir, reconnaître. C'est pas rien, parce qu'on est dans les projections. Quand on a un enfant, il y a aussi, on a beau dire il faut pas se projeter, mais il n'empêche que il y a des projections de parents, et que sur la vie affective et relationnelle et sexuelle, sur l'identité de genre, il y a cette projection là aussi, et de finalement ça échappe aux parents, et comment est-ce qu'ils font, quoi.
La vraie différence, Jean Chambry, peut-être, avec la génération précédente, qui a dû avoir aussi ces questionnements, mais qui tapait contre un mur aussi, j'imagine, d'une certaine façon, c'est qu'il y a des modèles. Il n'y avait pas de modèles auxquels on pouvait s'identifier dans les générations précédentes. Il n'y avait même pas de modèles gays, lesbiens, ou quasiment pas. Aujourd'hui, il y en a en tout genre. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence, au fond? Je reconnais ce que je ressens à travers cette personne-là, qui a mis des mots dessus, alors que moi, j'ai pas su mettre des mots dessus avant.
Tout à fait, et c'est une incompréhension que parfois peuvent avoir les parents, avec le sentiment que l'enfant serait sous influence, alors qu'en fait, il rencontre dans ces différents témoignages quelque chose qui fait écho avec ce qu'il ressent, et il a une possibilité de mettre des mots là où avant, et c'est ce qu'expriment des personnes, par exemple, trans de ma génération, qui disent, mais quand moi j'ai essayé d'en parler, on m'a tout de suite renvoyé, mais c'est fou, mais c'est n'importe quoi, et quand on sent que les parents ne sont pas prêts à parler de certains sujet, bah les enfants renoncent à aborder ces questions parce qu'ils veulent pas faire de la peine à leurs parents, ils sentent que les parents sont en difficulté, et on voit bien que là il y a quelque chose d'un changement générationnel important, parce que effectivement il y a une multiplicité d'expressions, et ce qui est très intéressant, c'est que justement ils vont beaucoup plus loin, au sens qu'ils cherchent aussi à ne pas vouloir reconstruire des cases, c'est-à-dire qu'ils veulent pas remplacer des cases par d'autres cases, mais avoir beaucoup plus de liberté dans la possibilité de se penser. Et évidemment, pour nous qui sommes habitués à raisonner à partir de cases, eh ben, on est évidemment en questionnement. Alors certains y voient de la liberté, certains parfois y voient évidemment beaucoup d'inquiétude.
Et on va y revenir avec certaines de vos questions, mais d'abord il y a Agnès qui nous attend. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
On vous écoute Agnès.
Oui, alors moi j'ai une expérience, justement c'était intéressant d'écouter cette petite partie, parce que bon, moi voilà, moi je suis maman de deux filles, dont une de 13 ans, qui me demande au mois d'octobre d'aller à la Gay Pride à Toulouse. Je lui dis oui, mais enfin je voudrais bien savoir pourquoi. Ce qu'il a décidé à vouloir déjà m'en parler et me dire. Donc elle a commencé à me dire, voilà, bah moi je me définis comme pansexuelle. Alors bon, bien sûr, moi je suis tombée de l'armoire, sachant pas du tout ce que c'était. Bien que je sois dans un milieu, je suis dans le milieu de la coiffure, donc pour moi l'homosexualité c'est quelque chose que je côtoie depuis 30 ans. Mes filles ont l'habitude d'avoir des gens autour de moi qui sont homosexuels, donc elles savaient qu'il n'y avait pas de tabou de ce côté-là. Donc elle m'a expliqué que effectivement c'était le fait d'aimer les gens pour ce qu'ils sont et sans les genrer, en fait. Donc moi automatiquement je pars sur, mais alors est-ce que c'est fille, garçon, bisexuel? Non, pas du tout. Et en fin de compte, là, j'ai découvert vraiment une autre facette, en fait, de ce milieu-là, en fait. C'est que ça peut être aussi complètement asexué et vraiment d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Bon, automatiquement, en tant que maman, je pose toujours la question, mais toi, comment tu te définis? Est-ce que tu es bien? Tu sais qui tu es? Elle me dit, oui, moi je sais, je m'appelle Blanche, je suis une fille, elle n'a pas de problème d'identité et de genre pour elle, mais dans sa relation avec les autres, en fait, elle n'a pas du tout de barrière c'est pas la sexualité, en fait, voilà, qui va faire une barrière à aimer ou une fille ou un garçon sans problème.
Merci. Pardon, allez-y Agnès, pardon. Vous avez été à la Gay Pride, j'imagine, surtout.
Voilà, donc nous sommes partis toutes les deux à la Gay Pride. Moi, avec ma pancarte, je suis fière de ma fille. Donc c'était très sympa. On a partagé une journée extraordinaire. Bon, j'ai pu échanger avec d'autres mamans, en fait, qui étaient là avec leurs enfants jeunes. Et c'était vraiment extraordinaire. Par contre, ce que j'étais très étonnée, c'est que on s'est retrouvés avec au moins, on va dire, 60% de filles par rapport aux garçons. Et je me suis dit, en rigolant, j'ai dit à ma fille, les garçons, ils ont intérêt d'être sympas avec les filles. s'ils veulent avoir une relation, on va dire, avec une fille, parce qu'elles vont vraiment faire le choix de la bonne personne et de la belle personne plutôt que fille ou garçon. Donc les garçons, il va falloir faire attention, quoi.
Parfois, ce sont les
chouettes.
Et parfois, ce sont les vous constatez ça, vous, Charline Debar? Est-ce que ce sont les filles qui ont plus la parole là-dessus, en fait, qui ont une autre facilité? Vous, le planning familial, théoriquement, il est évidemment pas seulement ouvert aux femmes et pas seulement ouvert aux filles. Et pourtant, c'est une réalité, non? Qu'est-ce que vous en dites?
Effectivement, en termes de consultation, ouais, de personnes qui passent la porte du planning familial, on va avoir énormément de filles, beaucoup plus que de garçons, hein, effectivement. Après, les animations scolaires font qu'effectivement, on arrive sur quelque chose de paritaire où on voit quand même beaucoup de garçons sur ces questions-là. Mais parce qu'en fait, là, je pense qu'on arrive aussi à la question des espaces ressources et comment identifier. C'est-à-dire que là, et j'espère que ça va changer, hein, sur les années avec les générations à venir, etc. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, le planning familial ou toutes ces structures-là, elles étaient vues comme c'est pour la contraception. Mais qu'on était beaucoup sur une conception de mais en fait, la contraception, c'est pour les filles. Donc, de fait, il y a beaucoup d'espace dédiés pour les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est énormément les filles qui y vont parce que il y a cette peur qui est complètement intégrée de de la grossesse, de la contraception, etc. On se rend compte que les garçons, malheureusement, ils vont peu consulter ces espaces-là. En tout cas, moins que les filles, et on n'arrive pas encore à identifier d'espace vraiment ressources aussi pour les garçons qui se sentent légitimes de venir se questionner. Mais parce que là, une fois de plus, on arrive sur des constructions sociales. Et comment on accompagne les garçons aussi dans cette construction-là de se penser eux, de se ressentir au-delà d'une norme de masculinité, etc.
Juste avant de retourner au standard, Jean Chambry, est-ce que c'est plus difficile pour les garçons que pour les filles?
Il y a encore un poids très fort des stéréotypes de genre sur la question de la virilité. Et on voit bien qu'un garçon qui exprime sa féminité est bien moins accueilli dans notre société qu'une fille qui peut montrer quelques traits de virilité. Et c'est vrai que je partage ce qui a été dit précédemment. On le voit vraiment. La violence des réactions de l'entourage est beaucoup plus forte dans ces situations. Et par ailleurs, effectivement, je pense que qu'un garçon se pose des questions sur la sexualité est culturellement moins accompagné, au sens que un garçon, ça doit faire des expériences, ça passe à se poser beaucoup de questions, alors qu'on voit bien que dans les faits, beaucoup de garçons se posent des questions, mais vont avoir une difficulté à trouver les espaces pour y répondre.
Je voudrais qu'on écoute Lionel. Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
On vous écoute Lionel.
Oui, alors c'est peut-être la vie réac de la soirée. Hein.
Non, non, mais alors je vais vous aider. J'en ai un autre ici sur franceinter.fr qui dit « Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec tout ça ? On a toujours connu ces périodes avec des termes nouveaux. » Donc vous pouvez y aller, vous êtes entouré, bon, Lionel, ne vous inquiétez pas.
Ça va, donc, je me sens à la solidarité. Donc en gros, c'est simplement, oui, effectivement, il y a un sujet de société qui est présent, on entend, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'en le mettant souvent en avant, etc., il y a un peu un danger derrière sur la fissure sociale qu'il peut y avoir entre les pour, les contre, etc. Et peut-être que c'est un sujet qui est important, et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus importants derrière à traiter. Je parle surtout par rapport à l'école, et derrière, par rapport à cette culture aussi, où de partout, dans beaucoup de séries qui ont du succès, etc., ce sujet-là est traité, il est amené. Et donc voilà, c'est juste une interrogation sans jugement.
Eh ben, on va répondre à cette question parce qu'elle est légitime, votre question, Lionel, Jean Chambry. On peut l'entendre, ça. Attendez, est-ce que c'est pas une espèce de phénomène de mode? Est-ce qu'on n'est pas en train de couper les cheveux en 4000, au fond, alors que finalement, il y a des réponses qui peuvent être plus simples? On parlait tout à l'heure de l'intérêt des réseaux sociaux, mais il peut aussi y avoir une autre influence. Les séries télé, c'est pareil. Qu'est-ce que vous en dites, vous, le pédopsie?
Bah, c'est-à-dire que moi, je pense que les adolescents, ils sont toujours le reflet de la société dans laquelle ils vivent et ils se saisissent de ce qui apparaît dans leur environnement. Ils se saisissent de tout ce qui fait décalage avec la génération précédente. Il faut quand même avoir en tête que tous ces modèles de représentation de la construction identitaire, ils sont pas nés d'aujourd'hui. Ils commencent dès les années 90. Sauf que, effectivement, il a fallu plusieurs générations pour avoir une certaine réception possible d'une nouvelle façon de se penser. Et je pense qu'il faut bien avoir en tête que c'est toute une série de facteurs qui participent à ça. Les évolutions des stéréotypes, la place de la femme dans la société d'aujourd'hui, la question des droits des LGBT, etc. Donc je pense qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'il y a une dimension de transformation, de mutation. Mmh. Et on peut espérer d'ailleurs que dans les années à venir, ça ne sera plus un sujet tellement que ça paraîtra tout à fait acceptable.
Charline Delbar, est-ce que la confusion ne vient pas du fait que derrière, il y a aussi derrière le côté binaire justement, mais là pour le coup quand on parle de genre ou de sexualité, il y a aussi un refus d'organisation binaire de la société. Donc ce sont des sujets qui sont aussi éminemment politiques, qui peuvent aller très vite sur le champ politique, et c'est ce qui rend le débat un peu biaisé au fond quand on parle simplement de genre, de sexualité et pas de politique, non ?
Oui, mais c'est surtout que là, moi, j'ai l'impression que parfois, on crée un débat, alors que pour moi, là, en fait, actuellement, il n'est pas question de savoir si on est pour ou contre.
Ah ouais.
La question, c'est de se dire, mais en fait, ça existe. Oui, effectivement, de plus en plus, tout le monde peut être représenté dans plein de séries. On le voit sur les plateformes, dans les séries, on voit toute cette diversité. Mmh. Et en fait, c'est... ça permet aussi de désinvisibiliser ce qui existait déjà, en fait.
Ce que vous dites, c'est que ça marche dans l'autre sens. Et vous avez raison, parce que les séries suivent la société et pas l'inverse. Donc, c'est pas le modèle qui vient de la série, mais c'est la série inspirée de la société qui, effectivement, multiplie le type de personnages qu'elle nous présente. Pierre est à Paris. Bonsoir, Pierre. Pierre.
Oui, bonsoir.
Ah, formidable.
Moi.
On vous écoute, oui, c'est vous, absolument. On vous écoute.
Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste vous faire part d'un témoignage. Moi, je suis le père de 4 filles qui vont de 7 mois à 15 ans et les plus grandes ont 11 ans et 13 ans et 15 ans. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est venu depuis quelques mois sur la table de la cuisine au moment des conversations du soir et auquel j'ai, dans un premier temps, réagi un peu de manière un peu condescendante comme un père qui sait face à d'autres qui ne savent pas. Puis, j'étais quand même bousculé. Et puis comme en plus tout ça est accompagné globalement dans la société de toute une avancée de réflexion sur la notamment moi j'ai 4 filles, donc l'approche de la féminité, de la place des femmes dans la société, ça, je trouve que c'est un peu dans ce mouvement de compréhension. Et puis je me suis dit au départ que j'ai eu la mauvaise réaction, et après avec le recul je me dis que quelque part aussi, on est des générations qui partageons le même endroit au même moment, même si c'est deux générations différentes, et que c'est aussi la confrontation de nos points de vue qui est intéressante, surtout dans une période où on a de plus en plus de mal à s'écouter, et c'est moins de savoir qui a raison, qui a tort, que de se dire qu'est-ce qu'on partage ensemble, quel est le point de vue qu'on a en commun, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut mettre comme filtre sur nos lunettes à chacun pour pouvoir vivre ensemble, et finalement se dire que voilà, le rôle des parents c'est de faire avancer leurs enfants, et le rôle des enfants c'est de bousculer ce qu'ont apporté leurs parents, et nous c'est dire que voilà ce qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui comme nouveau schéma, ils seront bousculés par leurs propres enfants et ainsi va la vie.
Et chacun bouscule l'autre. Jean Chambry, c'est comme ça que ça avance théoriquement, normalement.
Oui,
et c'est ce qui est en train de se passer.
Voilà. Le processus d'adolescence et le conflit générationnel.
Ouais. Et est-ce que c'est vraiment un conflit d'ailleurs ? Est-ce que ce que vous voyez aussi, parce qu'on peut l'entendre, et alors on peut entendre, on le disait à l'instant, puisque tout est possible, oui, alors au fond la génération précédente avait moins de possibilités, jusqu'en 1982, il faut pas oublier, l'homosexualité était punie par la loi, était interdite en tout cas, même si en France, heureusement, elle n'était pas punie, mais maintenant il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Donc on peut entendre cette réaction aussi de certains parents qui disent non mais c'est bon, enfin... arrête ton délire et viens manger, quoi, en gros.
Oui, mais au fond, d'ailleurs, je pense que plus les parents ne sont pas angoissés par ces questions et ont une ouverture et relativisent ces questions, plus finalement la relation est tranquille. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accueillir ça sans dramatiser, sans crier aux effrets de tout ce qui pourrait dériver. C'est vrai que le risque existe, mais il existait déjà avant. Et je pense que voilà, ils ont besoin de s'exprimer, et puis il y a la vraie vie, et comme dans beaucoup de ces consultations, on rappelle que derrière tout ça, il faut aussi avoir investir un projet scolaire, un projet de vie professionnelle, avoir des amis, avoir une vie amoureuse, et que leur vie ne va pas se limiter à ce discours, même si ça prend une place importante. Et c'est ça qu'ils ont aussi besoin d'avoir, des adultes qui ont confiance en eux et qui acceptent, comme le très beau témoignage de ce papa, de discuter, de pas toujours être d'accord, mais de respecter quand même un point de vue qui est différent et qui nous amène à avancer dans les relations sociétales actuelles.
Charline Debar, alors je veux certainement pas faire outrage aux Deux-Sèvres, mais moi je voudrais. On entend beaucoup de gens qui nous disent très souvent, voilà, des débats et des histoires qui sont bien parisiens ou en tout cas très citadins, très grandes villes, et des préoccupations au fond qui touchent une infime proportion des jeunes et de la société. Vous, depuis le planning des Deux-Sèvres, justement, qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Est-ce que vous êtes la preuve, au fond, que ces discussions-là existent partout, dans tous les milieux, auprès de tous les ados et jeunes adultes ?
Ces discussions-là, je vous le confirme, sont présentes partout, quel que soit le territoire. Après, ce qui va changer les choses, c'est que d'un territoire à un autre, on n'a pas les mêmes offres d'espace de parole. Mmh. Et d'application de séances d'éducation à la vie affective et relationnelle dans les établissements scolaires. Par contre, je voulais revenir sur justement le débat parents-ados, parents-enfants. Moi, l'impression que j'ai, déjà, c'est de se dire que l'enfant, en tout cas le jeune, la personne qui est concernée sera le ou la meilleure experte de ce qu'il ou elle vit, en fait. Et on est dans un fonctionnement aussi de société où on a toujours reçu le savoir par les plus anciens. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive à
dire,
mais non, en fait. Et là, c'est en train de s'inverser sur ces questions-là. Et ça, je pense que c'est dur aussi de se rendre compte que, mais en fait, et je trouve ça hyper positif de se dire, en fait, là, c'est à nous, adultes, de peut-être de s'asseoir et d'écouter ce qu'ils ont et ce qu'elles ont à nous dire, parce qu'ils sont les meilleurs experts et expertes vraiment sur ces questions-là.
J'ai un mail sous les yeux qui vient de Stéphanie et qui nous dit ceci, Jean Chambry. J'ai une fille de 16 ans qui, dès l'âge de 13 ans, s'est déclarée garçon avant de glisser vers le gender fluide. Cela dit, elle, son genre masculin, se fait appeler par un prénom mixte au lycée, etc. Moi, ce que je trouve intéressant dans le mail de Stéphanie, c'est donc elle s'est déclarée garçon avant de glisser vers le gender fluide. J'espère que j'ai pas choqué les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'à un moment on se stabilise vers quelque chose qui dit voilà, maintenant je sais qui je suis, ou est-ce que vous avez le sentiment au contraire que tout cela reste effectivement très fluide, en fait?
Après, c'est une question d'âge, parce que effectivement, je pense que vers 25-30 ans, on commence à avoir une idée un peu claire de qui on est dans un certain nombre de domaines. Avant, c'est quand même très difficile. Mais sur ces questions, oui, de ressenti de genre, il y a plus ou moins une certaine fluidité en fonction des âges. Plus ils sont jeunes, plus c'est fluide. Mais il y a aussi une découverte au fur et à mesure on commence par repérer ce qu'est une zone de souffrance, comment on se ressent. Et puis, les choses aussi, moi je le vois, ont beaucoup changé en 10 ans, on en parlait déjà pas mal, mais cette question de la fluidité, cette question de sortir des cases hommes-femmes, elle est quand même plus récente. Et je pense que certains ont commencé par avoir besoin de faire appel à des références hommes-femmes, et qui aujourd'hui s'autorisent à être plus complexes dans leur ressenti identitaire.
Dans la suite du mail de Stéphanie, elle dit elles sont trois à avoir changé de genre dans son entourage proche. Tout ça semble pour elles très naturel, rien à voir d'ailleurs avec leurs préférences sexuelles, qui sont par ailleurs peu affichées pour l'instant, sont encore des jeunes filles de 13 ans, génération très intéressante, nous dit Stéphanie, un peu déconcertante, on essaye quand même de suivre. Ce qui est peut-être déconcertant, Charline Debarre, et qui fait partie vraiment de notre apprentissage, nous, cette génération-là, et je vous le dis parce que je me suis fait reprendre par notre amie Clémentine, qui est notre stagiaire en ce moment, c'est la différenciation, la barrière qui existe entre l'identité, le genre, la sexualité, et ça fait partie de ces choses qui sont que si on ne l'a pas compris, si on ne l'a pas mis sur la table, effectivement on n'avance pas et on n'a pas compris.
C'est ça. Et moi ce que je trouve très intéressant, c'est au moins de pouvoir se poser la question et de se dire que en fait on a le droit de se tromper. On a le droit de pas avoir le bon vocabulaire, ça s'apprend, ça se découvre. Il faut aussi respecter ça. Les choses sur lesquelles nous on interpelle, c'est ce qu'on appelle le fait de mégenrer. C'est à partir du moment où la personne vous dit mais moi je suis en fait un garçon, en fait pas besoin de venir contester cette décision. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais après, et voilà, c'est différencier le sexe qu'on nous a assigné à la naissance et puis le sexe social et l'orientation sexuelle, c'est encore autre chose.
C'est intéressant que vous ayez employé ce terme de mégenré, Charline Debarre, parce que moi, je l'avoue très humblement, c'est un terme que j'ai appris l'année dernière. Donc, on avance. Alors, je voudrais quand même vous donner ce mail de Sarah, qui est à Paris, et qui nous dit « C'est pas normal qu'on fasse une émission militante là-dessus. Nos enfants sont en danger. On ne pense pas aux hormones et aux opérations derrière. C'est pas un monde formidable. Loin de là. » Alors d'abord, l'émission n'est pas militante. Les auditeurs sont ceux qui sont là et qu'on est ravis d'accueillir. Mais je trouve ce mail intéressant, Jean Chambry, parce que, alors d'abord, elle a le droit de s'inquiéter. Sarah, bien sûr. Mais surtout, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Là, elle nous parle d'hormones, elle nous parle d'opérations derrière. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On n'est pas forcément du tout dans ce cadre-là.
C'est pour ça que j'avais insisté sur cette dimension au début de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a la question de comment on se pense et comment on peut se définir en utilisant un vocabulaire et de se faire comprendre. Et que, effectivement, comme ça a été dit, que l'adulte en face puisse accueillir cette parole sans la contester, sans lui demander de se justifier, sans passer par des caractéristiques, parce qu'il y a cette possibilité de se penser hors de ces cases. Et puis après, effectivement, et ça ne concerne pas les enfants encore une fois, et c'est à partir de l'adolescence, pour certains, se posera la question effectivement d'une entrée possible vers une aide hormonale ou chirurgicale, mais c'est un autre sujet, c'est une autre question qui concerne
une autre minorité. Les transgenres, par ailleurs, sont effectivement une autre minorité.
Et qui ont besoin de ces espaces, qui ont besoin d'être accompagner dans cette réflexion, mais l'idée c'est pas que ça concerne tous les adolescents qui parlent de ces sujets-là. Il faut vraiment différencier ces deux aspects.
Et puisqu'on est là en l'occurrence les transgenres avec le mail de Sarah, les hormones, les opérations, j'aimerais juste qu'on redise ça très très simplement, Jean Chambry. En France, quand on n'est pas majeur, qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, quand on n'est pas majeur, tout va passer par l'autorité parentale. Donc il y a la nécessité de travailler avec les parents sur ces questions-là. Et par ailleurs, en ce qui concerne les enfants, il n'y a aucune possibilité hormonale ou chirurgicale. Le début des possibilités hormonales commence à l'entrée dans le processus pubertaire, donc en début d'adolescence.
16 ans
Alors non, là, ça serait plus vers 10-11 ans. La possibilité... Alors, c'est un traitement réversible.
C'est ce que j'allais vous demander.
Voilà, c'est un traitement réversible.
Chaque traitement de mineur est un traitement réversible, c'est ça l'idée.
Alors, à partir de 16 ans, c'est plus ou moins réversible. Okay. Mais avant 16 ans, et dans l'entrée dans l'adolescence, quand l'enfant a une réelle souffrance dans l'entrée dans l'adolescence, avec des idées suicidaires, une souffrance psychique majeure, donc ce n'est pas banalisé, effectivement, il y a la possibilité de mettre au repos le processus pubertaire, le temps que l'enfant gagne en confiance et en compréhension de lui-même, et par contre, à partir de 16 ans, effectivement, pour certains adolescents, là encore, qui ont une grande souffrance et qui peuvent pas vivre le quotidien dans la réalité de leur corps, et avec tout un accompagnement pluridisciplinaire, il y a une possibilité de proposer un traitement hormonal. Le traitement chirurgical est limité à une approche du torse pour certains jeunes hommes trans ou personnes non binaires qui en ont besoin. Il n'y a pas de chirurgie génitale chez les mineurs.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi je suis bénévole active pour une association qui s'appelle Contact, qui existe partout en France et qui travaille à la fois dans les campagnes et en ville. Et donc moi, je me définis comme queer lesbienne. Je me suis posé la question de mon genre et c'est comme ça que je suis arrivée à Contact. J'ai pu aussi parler du fait que j'apprécie plutôt les femmes que les hommes, en fait. Et j'ai pu voir comment je pourrais faire mon coming out vis-à-vis de mes parents. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on reçoit, donc ça c'était il y a 10 ans, mmh. et aujourd'hui, depuis 5 ans, en tant qu'écoutante, on reçoit beaucoup plus de personnes qui sont sur des questionnements de genre, qui viennent avec leurs parents. Et mmh. on a des parents qui sont certes pas mal déroutés, qui demandent des explications. Alors nous, on n'est pas du tout sur la partie médicale ni administrative. Notre objectif dans l'association, au travers des interventions milieu scolaire et puis à travers la ligne d'écoute, dans les groupes d'écoute et de parole aussi, c'est de recevoir les parents et de leur permettre vraiment de pouvoir s'exprimer sur leur sur ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent.
Mmh. Voilà. Et vous avez l'impression d'en voir plus aujourd'hui, d'avoir et alors en voir plus, ça veut dire qu'on ose plus venir vous chercher et surtout que les parents aussi, en fait, osent aller poser des questions, alors que peut-être que 2, 3, 4 ans, 5 ans avant, ils auraient dit ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire arrête ton délire et viens te mettre à table.
Oui, on en reçoit un peu plus. Ce qu'on ne sait pas dire, c'est est-ce qu'il y a toutes les strates de population, si on peut employer ce terme-là, qui se sentent libres de venir dans nos groupes d'écoute et de parole. Mm-hmm. Ça, j'en suis malheureusement pas sûre. C'est aussi pour ça qu'on travaille dans les interventions milieu scolaire, parce que quand on intervient dans des MFR ou dans des écoles un peu plus en campagne, et je suis fille d'agriculteur, donc je ne veux pas dire du mal du monde agricole, voilà, il peut y avoir plus de besoins dans des lieux qu'on ne voit pas nous dans nos assos en direct.
Merci beaucoup pour votre intervention, Isabelle. Là-dessus, Jean Chambry, des initiatives comme celle-là, des associations qui existent, et surtout des visites parents, enfants, ados, peut-être frères et sœurs, même allez savoir, de plus en plus.
Oui, bien sûr, puisque et ce qui est important, c'est de voir aussi des espaces complètement démédicalisés, dépsychiatrisés, qui puissent offrir effectivement une réflexion, un accompagnement, parce qu'il y a tout ce travail aussi de bien séparer toutes ces questions d'une approche normative qui serait rapportée à la question d'un trouble psychiatrique, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup d'associations qui existent et qui proposent des espaces, des groupes de parole et qui font un travail remarquable sur ces sujets.
On n'a pas le temps de prendre Nathalie, je m'excuse Nathalie parce qu'il nous reste 40 secondes, mais votre question, je vais la prendre parce qu'elle est intéressante. Elle nous dit, Jean Chambry, on n'entend plus parler en cette période de l'adolescence où le jeune se cherche. Plus personne ne trouve ça normal, j'ai l'impression. Il ne faut pas oublier qu'un jeune se cherche. Il a besoin aussi de réconfort, mais il se cherche.
Bien sûr, et c'est pourquoi il ne faut pas l'enfermer dans des étiquettes et qu'on lui laisse la possibilité de se chercher, et qu'il faut bien différencier cette question de l'approche médico-chirurgicale qui est encore une fois vraiment limitée à certains cas.
Voilà, prends ton temps, jeune. Et merci à tous pour cette émission. Merci pour vos très nombreux appels.